RCF, les grands entretiens d'Éric Rouillet.
Dominique Merlet, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans nos studios de RCF, je suis vraiment ravi de vous accueillir. Vous avez mis récemment un terme à votre carrière de concertiste, un terme à votre carrière discographique, et maintenant vous découvrez un peu le plaisir de jouer encore du piano, de l'orgue pour vous. Dans un quotidien peut-être un peu moins comprimé par la servitude de ses obligations de concerts et de projets discographiques, et peut-être un peu plus de disponibilité envers vos amis, votre famille. Est-ce que cette façon de jouer, cette nouvelle façon avec plus de liberté, vous apprend à considérer la musique différemment, peut-être avec un peu plus de gourmandise?
Peut-être, mais c'est surtout que j'ai davantage de temps pour lire. Et donc, je lis beaucoup, j'ai une assez belle bibliothèque, beaucoup de livres d'art, par exemple. Et c'est un grand plaisir de pouvoir lire. Du coup, je me suis lancé, j'ai repris, par exemple, les essais de Montaigne, que je n'avais pas lu depuis 50 ans. Et c'est très intéressant, j'apprends plein de choses. Je viens de faire la notice de présentation du futur disque d'une ancienne élève. Donc ça m'a fait très plaisir qu'elle me demande ça. Pour ça, j'ai dû repiocher dans les documents, parce que j'ai quand même beaucoup de documents, hein, en particulier pour Chopin, puisqu'il s'agit d'un disque Chopin.
Ouais, parce qu'en fait, on a l'image de l'artiste quand il cesse sa carrière. On a l'image d'un artiste un peu seul où tout va s'écrouler, qu'est-ce qu'il va faire? Mais finalement, vous, non. Vous lisez, et vous avez réussi à rebondir, à trouver d'autres passions, à remplir votre quotidien différemment. Sans tristesse, sans nostalgie.
Oui. Alors de toute manière, j'ai beaucoup de musique dans ma tête. Hein. Tout mon répertoire est dans ma tête, hein, naturellement. Donc ça part pas. Hein, ça part pas. C'est indéfini. Hein. C'est vraiment. Donc je relis les partitions, par exemple. J'ai des élèves qui me consultent pour tel ou tel problème, et de ça je peux répondre. C'est pas dramatique, hein. C'est, de toute manière, il faut bien arrêter un jour ou l'autre. Hein.
Puisque tout est dans votre tête, vous vous souvenez que vous n'avez pas commencé par le piano, mais par la percussion. Et à tel point qu'à 14 ans, vous avez interprété comme percussionniste Salomé de Richard Strauss. Mais à 14 ans, vous étiez en culotte courte, pas en costume pour ce concert.
Oui, c'est-à-dire que c'était au Festival de Bordeaux et j'étais donc dans la fosse du magnifique Grand Théâtre de Bordeaux. Et naturellement, pour la circonstance, il fallait que j'aie un smoking. Or, je n'avais pas ce smoking. À 14 ans, vous comprenez, c'est naturellement. Donc, j'ai mis le smoking de mariage de mon père. Et comme évidemment, je flottais dedans, il a fallu mettre des bouquins. On a mis des livres de messe dans le smoking pour que je ne sois pas trop flottant dans le smoking. Voilà, enfin, c'est une petite anecdote. C'est amusant. Mais c'est un souvenir inoubliable parce qu'il y avait un plateau formidable, absolument formidable, avec tous les grands chanteurs wagnériens de l'époque. Et le chef était remarquable, c'était Georges Sébastien, qui était un grand wagnérien. Et cette représentation de Salomé est inoubliable pour moi. Vous vous rendez compte, hein, être pendant 3 heures dans la fosse de... Ah oui, non, c'est un souvenir inoubliable. Et puis j'ai aussi joué... dans un concert dans la percussion avec Paul Paré pour la valse de Ravel. Je suis toujours outré quand j'entends la valse de Ravel aujourd'hui parce que ce n'est pas du tout l'image que Paul Paré donnait de cette œuvre, qui était une œuvre tragique, sombre, pas rapide, pas virtuose du tout. Et maintenant, on voit tous les jeunes pianistes jouer ça à fond de train. Et ce qui est complètement à côté de l'idée de Ravel. Hein, voilà, donc il y a plein de choses comme ça qui sont intéressantes, qui sont des souvenirs de ma jeunesse. Hein,
ouais. Et est-ce qu'il y a un lien entre vos débuts de percussionniste et je crois vos premiers enregistrements qui concernaient Béla Bartok?
Oui, parce que au conservatoire, quand j'étais dans la classe de musique de chambre, instruments d'avant, j'ai été trouver le professeur et puis je lui dis, voilà, est-ce que vous me permettriez, au lieu de jouer avec instruments d'avant, de faire le concours avec une œuvre exceptionnelle qui est la sonate pour deux pianos et percussions de Béla Bartók. Chose qu'on n'avait jamais faite, évidemment, rue de Madrid, au conservatoire. C'était dans les années 53, hein, voilà, en 1953. Et très gentil, c'était un homme adorable, René Leroy. Et il m'a dit, oui, bien sûr, tu peux le faire, bien sûr. Alors j'ai cavalé pour trouver le professeur de percussion qui n'attendait que ça, évidemment. Et on a mis en place une exécution, mais c'était un gros travail, hein, parce que la sonate de piano-percussion de Béla Bartók, c'est quelque chose de, surtout à l'époque, d'extrêmement difficile. Donc on a préparé la sonate de Bartók, et puis il se trouve que quand on a fait le concours, il y avait une personne qui était dans le public. Et cette personne était responsable musical du journal musical français. C'était Jacques Longchamp, qui ensuite est devenu le grand critique du Monde. Hein, donc très important. Et à l'époque, il s'occupait du club musical du disque. Et il a été tellement emballé qu'il nous a demandé tout de suite d'enregistrer la sonate. Donc on a fait tout de suite, dans la foulée, on a fait le disque de la sonate de piano percussion. Ce disque est toujours en vente actuellement.
On va passer de vos débuts avec Béla Bartók. Je crois qu'il y avait d'ailleurs Robert Schumann, que vous avez beaucoup enregistré au début de votre carrière. À la fin de la carrière, avec notamment le clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, parce que je crois que pour l'enregistrer, vous l'avez travaillé d'une façon très particulière, par groupe de 8.
Oui, parce que j'ai voulu tout reprendre à zéro, hein, parce que je n'avais jamais joué le clavier bien tempéré. Je l'avais fait travailler à mes élèves, naturellement, parce que c'est indispensable de faire travailler le clavier bien tempéré. Mais comme j'étais aussi organiste, pour moi, Bach, c'était toujours à l'orgue. Hein. Donc là, quand Philippe Cassard m'a demandé d'enregistrer le clavier bien tempéré, j'ai décidé de tout remettre à plat et de tout reprendre à zéro. Donc j'ai scindé le recueil de 24 préludes et fugues en 3, par trimestre. Comme ça, je suis arrivé à faire tout le recueil, hein, des 24 préludes et fugues, avec un dernier trimestre où je récapitulais tout. Hein, voilà. Ce qui fait que je suis arrivé à l'enregistrement très à l'aise.
Oui, alors, on a enregistré ça à la Guayotte, à Von Romanée, c'est Aubert Villaine qui nous avait accueillis, mais pourquoi avoir choisi de commencer par le deuxième livre ?
Parce que au départ, Philippe Cassard, qui s'occupait du festival de Radio France Montpellier, m'avait demandé de terminer une journée de préludes et fugues à Montpellier. C'est amusant parce que ça avait commencé avec un de mes élèves, Cédric Péchat, qui est un remarquable élève, qui est maintenant professeur au Conservatoire de Genève. Il enseigne dans la salle où j'enseignais moi-même, hein, c'est amusant. Et donc Cédric a commencé avec le premier livre du clavier bien tempéré, le matin à 9h. Et puis après, il y a eu d'autres pianistes qui ont joué des préludes de Debussy, des préludes de Shostakovich, un tas de préludes différents, jusqu'au soir. Et c'est moi qui ai terminé, à 9h du soir, j'ai terminé avec le deuxième livre du clavier bien tempéré.
Vous avez eu, malgré tout, après ce concert, quand l'idée d'enregistrement a été émise, vous avez eu des réticences pour vous lancer dans ce projet discographique.
Oui.
Il a fallu un peu insister, il a fallu...
Ben oui, parce que j'étais pas vraiment emballé par l'idée d'enregistrer le clavier bien tempéré. Bon, il y avait plusieurs versions déjà. Je n'étais pas sûr que ça marche, que ça soit bon, etc. Et puis quand je me suis lancé dedans, là, évidemment, j'ai mordu à l'hameçon, en quelque sorte. Hein. C'était un peu... Et puis, ça s'est très bien passé, vous vous souvenez?
Je me souviens très bien.
Voilà. Et du coup, ça vous a donné l'envie de m'inviter à faire le premier livre. Voilà. Et j'ai fait le premier livre et nous avons fait ensemble le premier livre. Et voilà. Donc, et ça a été un beau succès. Et j'en suis ravi. Et voilà.
Alors, au sujet de ce clavier bien tempéré, il y a un grand musicologue qui s'appelle Gilles Cantagrel, qui aujourd'hui fait référence dans ce domaine, qui a tenu à apporter un message à cette émission par rapport à l'idée qu'il a de vous et de vos qualités musicales.
Ah, eh bien, vous savez, il y a énormément de pianistes et donc également beaucoup d'organistes, du fait que Dominique est aussi organiste et excellent organiste, mais il n'y en a pas beaucoup comme lui. Il y a chez Dominique, surtout quand il s'attaque au clavier bien tempéré, par exemple, et qui a eu beaucoup de très bons enregistrements, il y a chez lui une espèce de sobriété, d'intériorité, devrais-je dire. C'est quelqu'un qui a approfondi considérablement tout ce qu'il fait. Il l'a peu enregistré parce qu'il préfère s'en tenir à l'essentiel, l'essentiel de ce qu'il pense, de ce qu'il peut faire. Donc ce n'est pas, c'est le contraire d'un cabotin, si vous voulez. C'est quelqu'un d'extrêmement profond et toute sa musique est ainsi. Le choix des œuvres, par exemple, lui appartient. Il n'a pas enregistré n'importe quoi parce qu'il faut enregistrer. C'est un être qui va à l'essentiel toujours. Je ne peux pas dire beaucoup mieux. L'essentiel. C'est un grand musicien. Il y a de grands pianistes qui sont aussi, heureusement, de grands musiciens, mais qui ont une vision, une approche personnelle, différente les uns des autres. Et ce qui laisse la place pour l'interprétation personnelle, individuelle. Dominique Merlet, c'est d'abord un grand musicien. D'ailleurs, je connais beaucoup d'autres, comme Alain Meunier, enfin de votre catalogue, qui sont des grands musiciens. Eh bien, il est un de ces rares, très grands musiciens. Et reconnu comme tel, s'il n'a pas beaucoup enregistré, c'est parce qu'il a choisi, il a choisi sa voix, et qui est une voix de l'exigence. C'est pour moi essentiel.
Dominique, c'est un bel hommage de Gilles Cantagrel.
Oui, je suis très touché de cet hommage parce que Gilles n'est pas n'importe qui. Il a entendu beaucoup d'interprètes et d'enregistrements et ça me touche beaucoup ce qu'il dit, évidemment. Oui.
Est-ce qu'il y a une différence entre Dominique Merlet, l'homme, et Dominique Merlet, le pianiste? Est-ce que le pianiste a une attitude, a un comportement qui est adapté à son public, à l'image qu'il peut avoir, ou est-ce que le pianiste et l'homme sont la même personne?
Non, c'est la même personne. Moi, je ne me préoccupe pas du tout. Quand j'arrive sur un plateau pour répéter, je suis moi-même. La seule chose qui m'intéresse, c'est la qualité du piano, de la mécanique, et je répète, et c'est le résultat qui m'intéresse, hein. C'est pas du tout...
Pas de tentation pour nourrir les attentes d'un public, quelques facilités pour émouvoir...
Oh non, ça, il y en a d'autres pour ça. Hein.
j'ai une observation, en fait j'aimerais que vous me répondiez, et j'ai une vidéo du 4e concerto pour piano de Beethoven, ah bon, que vous avez interprété à Bucarest. Et pendant le concert, vous semblez échanger des communications étranges avec une sorte de bourgeoise qui est au premier rang, avec un éventail rouge.
Oui, oui.
Alors vous passez le premier mouvement à la regarder, et le deuxième mouvement à lui parler.
Non, alors... c'est pas tout à fait ça, non.
Ah, pardon.
Non. Je lui ai lancé un regard furibard. Parce qu'évidemment, elle me gênait beaucoup. Hein. Vous imaginez quelqu'un qui est là à portée de main et qui est là avec un éventail alors qu'on est en plein hiver. Hein. C'était au mois d'octobre, vous vous rendez compte. Enfin, c'était absolument ridicule. C'est son voisin qui lui a poussé du coude pour lui dire qu'elle me gênait. Il s'est aperçu qu'elle me gênait beaucoup. Donc elle a fini par ranger son éventail et j'ai pu jouer quand même normalement. Hein.
Vous lui avez lancé un regard sombre à un moment.
Ah ben oui, ah ben oui, non, parce que là j'étais vraiment pas content. Parce que c'est une salle où le premier rang est tout près de la scène. Hein. Donc elle était là au premier rang, dans mon champ de vision. Ça m'a énormément gêné. Hein. Enfin, ça, c'est un des mauvais souvenirs de concert.
Moi. Pour moi, en tant qu'auditeur mélomane, c'est un bon souvenir de voir ça.
Ah bon ?
Oui, c'est amusant.
Oh, c'est amusant, oui. Mais enfin, ça devrait pas arriver, quoi. Hein, c'est...
La Vallée des Cloches, Maurice Ravel, enregistré par Dominique Merlet en 1990. C'est par cette œuvre, Dominique, que je vous ai croisé. C'est par cette œuvre que j'ai été fasciné par votre jeu, par une sorte d'évidence, une poésie, quelque chose qui est de l'ordre de l'immédiat, que je n'ai jamais retrouvé chez d'autres interprètes. C'est ce coffret Maurice Ravel qui m'a amené à essayer de vous rencontrer et qui a établi avec moi, qui suis un simple mélomane, une relation très particulière à Maurice Ravel en me disant que ce coffret était une sorte d'aboutissement. Je ne sais pas trop comment l'exprimer autrement. Et vous me faisiez remarquer que pour interpréter Ravel, il faut un esprit, il faut une substance qui est tout à fait différente de la façon d'interpréter Debussy, et qu'on peut, avec la partition de Ravel, jouer presque à la Debussy, mais ça donne un contresens absolu. La même chose pour Debussy, pour jouer à la façon Ravel, mais là, on est dans des choses fondamentales, mais en même temps infinitésimales, parce que comment on perçoit ça? Vous avez cette sensibilité, vous avez cette culture, vous avez quelque chose qui dépasse la partition, puisque ce n'est pas écrit sur la partition.
Oui, mais c'est au bout des doigts. C'est les doigts qui font que le piano sonne complètement différemment. Hein. Ce qu'il faut, c'est que le piano soit un autre instrument. Il faut donner l'impression, quand on joue les deux, qu'on a poussé le premier piano et qu'il y a un deuxième piano qui arrive et qu'on joue sur un autre piano. Hein. Voilà. C'est ça qui m'intéresse énormément, c'est la variété de toucher. Et c'est ce que j'ai enseigné, j'ai essayé d'enseigner pendant 40 ans à mes élèves au conservatoire. C'est surtout de ne jamais tout jouer pareil, mais d'avoir une grande variété de toucher. Et c'est au point que j'ai fait très souvent une conférence sur toucher et couleur dans la musique de Debussy et Ravel. Et cette conférence, je l'ai faite dans beaucoup de cieux et à l'étranger, en Corée notamment, au Japon. Des Japonais m'ont fait venir à Vienne pour enregistrer un DVD consacré au sujet. Hein. Donc j'ai un sujet consacré à ça pour montrer à tous les jeunes pianistes la variété de couleurs et de touchés qu'il faut entre les deux musiciens pour ne pas mélanger du tout les couleurs de ces deux musiciens. Hein, voilà. Et c'est très profitable de faire ça parce que on apprend beaucoup techniquement, on apprend énormément, mais la main n'a pas la même position, les bras ne fonctionnent pas de la même manière, c'est tout un travail technique pour changer le toucher entre les deux musiciens. Et pour le Debussy, il faut les doigts plus allongés, il faut caresser le clavier, etc. Ravel, c'est beaucoup plus nerveux, beaucoup plus mordant, de la pointe des doigts, etc. Enfin, mais c'est très intéressant parce qu'on change complètement la couleur du piano.
Et donc, jouer exactement les notes d'une partition ne signifie pas forcément y être fidèle. Et la respecter, il faut beaucoup d'autres choses.
Oui, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, bien sûr. Il faut avoir l'univers sonore nécessaire dans la tête et puis l'insuffler dans le piano. Hein, voilà.
Et donc, c'est un geste qui est la transmission d'une pensée.
Oui.
Parce que quand vous appuyez sur le piano, dès les premières notes, il se passe quelque chose dans vos travels.
Oui, oui.
Et ça, on ne peut pas le définir. On a du mal à l'expliquer.
Non, mais on peut l'apprendre à des élèves doués. On peut l'apprendre à des élèves doués. Hein. Et j'ai eu la chance d'avoir des élèves remarquables qui font carrière aujourd'hui, qui ont bien compris le problème. Hein.
Est-ce qu'il y a un plaisir physique différent? Un plaisir presque charnel, si ça existe, par exemple, à jouer Ravel ou Debussy.
Oui, bien sûr. Et je pense que c'est tout à fait normal qu'on se sente mieux dans l'un que dans l'autre. Hein, je pense que, à la limite, c'est presque, je dirais pas inquiétant, mais c'est surprenant qu'on se sente aussi bien dans l'un que dans l'autre. C'est pas du tout le même univers. Il faut changer complètement de peau, si je peux dire.
Dominique, nous arrivons au terme de nos grands entretiens. Je vous remercie d'être venu dans nos studios. Et nous allons nous quitter avec le premier mouvement de la sonatine de Maurice Ravel. Merci, Dominique.
C'est une merveille, oui.
Merci.